I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, une émission où on écume tous les blogs, toutes les news et toutes les infos de la tech pour vous les resservir déjà facile à comprendre, à appréhender, de manière à ce que vous ayez en une heure par semaine un moyen super simple de suivre l'actu tech. Vous dites, bon, la tech c'est important, il faut que je sache, mais comment ? Eh bien la réponse est simple, écoutez le Rendez-vous Tech et c'est réglé. Vous pouvez sortir ce souci de votre tête et comprendre le monde, puisque aujourd'hui on ne peut pas comprendre le monde sans comprendre la tech, ça on le sait tous. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour vous aider justement à comprendre la tech et donc à comprendre le monde, j'ai confié la mission à Cédric Ingrand, puisque moi je suis juste là pour présenter, hein. C'est lui qui est le cerveau de l'opération. Comment ça va Cédric?
Écoute, je suis allé tester pour vous ce week-end la tempête en Bretagne. Je ne suis pas déçu. Hein, mais,
est-ce que
mais
tu as un moyen tech de gérer la tempête en Bretagne?
Oui, un peu moins l'aftermath, comme diraient les anglo-saxons. Je suis dans un état physique, mais ce n'est pas grave. Je serai le cerveau de cette émission, okay. Au moins le temps du podcast.
Écoute, je t'en remercie. Oui, nous aussi, on a la tempête en Finlande. C'est intéressant. C'était intéressant au milieu de la forêt, avec le vent qui souffle, qui réveille le petit, qui lui fait peur. Je comprends tellement de choses sur la nature. Maintenant que je vis dans la nature, il y a les saisons, il y a le vent qui fait peur, en fait. Il y a la nuit qui est vraiment noire. Enfin, c'est
fou, je découvre des choses. Anecdote perso, moi, j'ai pas eu ce problème, parce que j'ai encore un enfant en bas âge, une petite fille qui n'a pas encore 3 ans. Et en fait, de fait, la nuit, le vent soufflait énormément, etc. Mais elle n'a pas ce souci, parce que de toute façon, tous les soirs, quand elle se couche, elle a un petit Google Assistant dans sa chambre qui ne sert qu'à une chose, c'est que le soir, quand elle se couche, on dit « Google, play storm sounds ». Pour une raison que je ne m'explique pas, elle adore les bruits d'orage, etc. Donc de toute façon, elle est parfaitement habituée à tout ça. Elle n'est pas du tout impressionnée. Les paquets d'eau qui tombent sur son Vélux, etc. Whatever.
Donc, d'accord. Voilà. Bah, écoute, il faut que je tente peut-être la chose pour accoutumer le mien à ces bruits-là, parce que c'est vrai que ça lui fait quand même quelque chose.
Ouais, ça c'est un pro-tip hein, pour tous les nouveaux parents. Le silence n'est blancs, pas votre ami, le silence est votre ennemi, parce que c'est tellement facile de troubler le silence, alors que va troubler
les
bruits de tempête, il n'y a pas de souci.
Eh bien écoute, merci pour cette petite astuce tech pour le sommeil des enfants.
On va faire un nouveau podcast de jeunes papas.
C'est pas, écoute, il enfin, y a des choses dans ce domaine, oui.
Non,
mais si, disons jeune papa sur un malentendu, ça peut nous présenter sous un jour un petit peu meilleur. Et on va vous parler alors des plaisanteries que fait Taika Waititi sur les claviers d'Apple en petite introduction. On va aussi vous parler de ce qui se passe dans les élections américaines qui sont assez intéressantes, de plein d'autres sujets. Mais avant ça, je voudrais évidemment remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon, spécifiquement aujourd'hui Nolan Rigaud, Clément Bourgoin, Julien Poirier, Troufinou, Clément Barras, FX Cherry, Paolo Polo Borges, Nicolas Dupont, Benjamin Gorez et Marc Quebels Pérez. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission et de faire une action active pour l'activité des... Non, j'en ai pas d'autres d'actifs. Mais merci à vous tous. Et merci aussi à tous ceux qui ont répondu au sondage. Je parlais du sondage pour vous poser des petites questions sympathiques et vous proposer des photos possiblement compromettantes de Patrick pour ceux qui répondent au sondage. Visiblement, ça marche, ce genre de motivation, parce que vous avez été quasiment 1 000 000 à répondre au sondage, ce qui est quand même...
Ne les encourage pas.
Le lien sera encore dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent répondre. J'ai eu des commentaires déjà choisi sur ses photos scandaleuses. Donc voilà, si vous ne les avez pas encore vues, vous pouvez aller répondre au sondage et je pense que vous ne serez pas déçus. Et en plus, il y a
qu'est-ce
des questions
que, qu'est-ce
sympas.
Que tu cherches à savoir dans le sondage ? Enfin, je veux dire qu'il soit assez important pour y risquer ta réputation.
Non, bah, c'est le sondage. C'est juste que, en fait, je demande aux gens de me donner un peu de leur temps pour répondre aux questions et je me suis dit que c'était sympa de leur donner un truc en contrepartie. C'est des questions classiques sur âge, sexe, où les gens écoutent les émissions, et puis des questions sur le Patreon. Quelles sont les récompenses intéressantes, quelles récompenses les gens aimeraient bien avoir, les gens qui soutiennent ou qui soutiennent pas, pourquoi, et ce genre de choses. Donc voilà, et j'en parlerai peut-être un petit peu en milieu d'émission, mais je vais faire très bientôt un édito pour les gens qui soutiennent l'émission, où je vais parler justement de tout ça, de comment j'ai choisi les questions, des premiers résultats. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez soutenir sur Patreon. Ça vous donnera des clés sur tous ces sujets. Donc, je parlais de Taika Waititi et d'une plaisanterie qu'il a fait aux Oscars. Alors, pour ceux qui ne savent pas,
Taika... Mais qui est Taika Waititi ?
C'est ça, voilà. Réalisateur bien connu, néo-zélandais, je crois.
Qui... J'essaie de jouer mon rôle de cerveau. Hein,
je... Merci, merci, j'apprécie. Donc, c'est un réalisateur qui a fait notamment Thor 3, Ragnarok, et aussi Jojo Rabbit, enfin plusieurs films. C'est un humoriste, réalisateur, acteur. Et aux Oscars, on lui a posé une question sur les négociations de la Guilde des auteurs de Hollywood et quelles étaient leurs préoccupations. Et il a esquivé la question, parce qu'il ne voulait pas répondre sur ce sujet sérieux, avec talent et avec humour et... avec une petite attaque assez violente sur Apple et sur leur clavier. En gros, ce qu'il a dit, c'est alors, qu'est-ce qu'on lui demande, de quoi vous pensez que les discussions vont parler entre les auteurs et les producteurs à Hollywood, là, dans les jours et les semaines qui viennent. Et lui dit, alors on va parler à Apple, il faut qu'il fasse quelque chose pour ses claviers, quoi. C'est impossible de taper dessus, ils sont de pire en pire. Ça me donne même envie, insulte suprême, ça me donne même envie de retourner sur des PC. C'est Alors, on imagine qu'il parlait peut-être pas des tout derniers claviers de l'Apple.
Ouais, la question c'est ça, c'est est-ce qu'il a testé le MacBook Pro 16.
Ouais, mais c'est marrant parce que les claviers, ça fait des années que les gens s'en plaignent et là, ça offre une plateforme, ça donne à ce problème une plateforme assez importante. C'est pas non plus le Super Bowl, mais Taika Waititi qui s'emploie aux Oscars, ça ternit l'image d'Apple encore plus qu'elle ne l'était sur ces sujets. C'est pas négligeable, quoi. Et bon, Apple va l'ignorer, je pense, mais ça a quand même une influence.
Comme tout le reste jusque-là, hein, dans l'ensemble, je veux dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a cette histoire de clavier est un truc à bas bruit, mais qui revient de manière constante depuis qu'ils avaient fait la première, puis la deuxième génération de ces butterfly, machin, voilà, comment on appelle ?
Clavier papillon, ouais.
C'est ça, clavier
les
papillon.
Mécanisme papillon.
Alors, qui de fait sont hyper fins pour les gens qui n'ont pas un MacBook Pro devant eux de génération récente. L'intérêt de ces claviers, c'est qu'ils sont extrêmement fins. Le problème, moi j'avoue, je me suis assez vite habitué à taper dessus, c'est pas désagréable. Le problème, c'est qu'ils sont d'une fragilité, mais alors que le clavier est quand même le truc que t'es censé pouvoir sur un PC normal, je veux dire, pouvoir laisser tomber par terre, presque renverser ton verre d'eau dessus, enfin, etc. Là, pas du tout. Apparemment, la moindre poussière qui se met dans le mécanisme tout à coup, moi j'ai des touches qui fonctionnent plus depuis très longtemps, j'ai la flemme d'aller dans un Apple Store pour le montrer.
Ah, donc tu utilises ton clavier avec des touches qui fonctionnent plus?
Non, mais j'ai de la chance que ce soit des touches qui existent en double, hein, comme la touche Shift, comme une des deux touches commande.
Et là, par contre, pour un ordinateur payé au double du prix d'un PC, c'est effectivement. Mais c'est marrant parce que.
Le prix souffle, la qualité reste. Mais c'est amusant, hein, parce que, et c'est vrai qu'on en discute et on en sourit régulièrement. Moi, j'ai pas de souci à passer d'un iPhone à un Android. Par contre, c'est vrai que me passer d'un Mac, c'est un peu. J'ai eu plein de PC, hein, dans ma vie, mais. là, me passer d'un Mac, c'est over my dead body.
Même s'il y a le clavier qui marche pas. Et il y a ça, il y a aussi beaucoup de gens se plaignent de la profondeur des touches qui est vraiment minuscule sur cet ancien mécanisme papillon qui est gênant pour taper pour certains aussi. Moi, ça me gêne pas beaucoup non plus, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. La nouvelle version est disponible sur les nouveaux Mac de l'année dernière, fin de l'année dernière, avec un mécanisme qui est revenu au mécanisme ciseau. Mais voilà. Et ils vont sans doute l'implémenter sur les nouveaux ordinateurs portables qui vont sortir dans les mois à venir. Mais bon, l'image, je pense que ça va rester, quoi. C'est les claviers sont pourris. Autant les trackpads des MacBooks sont inimitables, ils sont vraiment d'une qualité supérieure.
Je suis d'accord.
Autant là, je crois que l'image des claviers pourris sur les MacBook et MacBook Pro va rester, et je pense que c'est ça va mettre un moment ils vont en mettre un moment à s'en remettre. Je ne sais pas si ça détermine des décisions d'achat, sans doute chez certains, mais ce qui est sûr, c'est que les gens s'en plaignent, quoi.
D'autant que non seulement ça, mais en plus ils sont apparemment terriblement difficiles à réparer.
Mais oui.
Et ça pose un vrai souci parce que moi, là encore, je viens d'un temps que les moins de 30 ans peuvent pas connaître. C'est-à-dire que où t'avais un problème d'un clavier encrassé, un truc, tu faisais sauter la touche, tu allais nettoyer en dessous, pchit, et voilà, c'était fini. Non, là, c'est pas possible. Là, si tu fais sauter une touche, tu peux quasiment jeter la machine.
Ouais. C'est ça.
Donc voilà, c'est un problème. Ceci conjugué à la touch bar dont on cherche toujours l'utilité profonde.
L'utilité, oui, c'est sûr.
Non, il y a des fois où c'est utile, etc., mais peut-être pas à l'échelle de ce qu'elle coûte.
L'autre truc réparer, c'est pas facile. J'annonçais la semaine dernière aux auditeurs que j'avais cassé mon écran d'iPhone. La première fois en 10 ou 12 ans d'utilisation d'iPhone, j'ai fait tomber mon iPhone 10 et il est bien... c'est très, très utilisable encore. Et je me suis dit, bon, j'ai 8 mois, 7 mois avant la sortie des prochains. Je me disais que j'allais sans doute en acheter un. Qu'est-ce que je fais en attendant ? Bon, bah, je vais le réparer. Donc, j'appelle Apple. Il y en a un qui connaît, là. J'appelle Apple, je leur dis, ah, donc, je voulais savoir combien. Je me disais, allez, ça coûte un peu cher, ça va coûter 150, 180 euros, quelque chose comme ça. Est-ce que tu sais combien coûte le changement d'un écran, d'une vitre d'iPhone 10 ? Est-ce que tu te hasarderais un chiffre ?
350 ?
Et voilà, on est à plus de 300 euros. On me dit 310, le tarif normal.
Ah,
en Finlande, il n'y a pas... Attends, en Finlande, déjà, tout est plus cher en Finlande. Hein. C'est ce que je dis toujours. C'est l'expatriation fiscale en Finlande, c'est le bon plan parce que tout est plus cher et on paye plus de taxes. Mais le prix chez les revendeurs agréés, parce qu'il n'y a pas d'Apple Store officiel, 380 à 400 euros pour changer l'écran. Non mais j'ai pas insulté la gentille personne qui m'a répondu, qui était très gentille dans un call center à Cork en Irlande, mais j'ai ri de désespoir en quelque sorte. Donc ce que j'ai
fait... si ça peut te mettre un peu de baume au cœur, si tu avais cassé la face arrière, la vitre de la face arrière, ça t'aurait coûté, je crois, encore plus cher.
Écoute, je sais pas si c'est une bonne chose parce que la face arrière, on s'en sert pas.
Bah, essaye.
Forcément.
Non, pardon.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un protecteur d'écran et je vais le mettre dessus pour que ça casse pas plus. Et puis, j'espère que ça va tenir mes 8 mois parce que là, à ce prix-là, je me disais pendant un moment, je vais acheter un Android. Mais en fait, il marche. Mon iPhone, là, il marche très, très bien. Il a juste quelques petites traces. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire. Petit update sur tout ça.
C'est vrai qu'il fut un temps où la vitre et l'écran étaient deux éléments distincts du smartphone. Moi, je me souviens, j'avais même acheté sur AliExpress, tu vois, un petit kit d'outils pour changer les écrans. Parce qu'en fait, tu rachetais une vitre, ça coûtait vraiment 3 francs 6 sous. Mais on va dire, sur des générations d'iPhone, vraiment, tu vois, 4, 5, 6, je ne suis même plus très sûr d'avoir réussi à le faire.
À un moment, ils ont laminé.
Non, c'est compliqué. Non. Jusqu'au 5, c'était jouable. Et puis sur plein de générations d'Android, mais ça coûtait rien, c'est-à-dire que racheter une vitre, ça coûtait 10 balles, tu vois, vraiment c'était pas cher. Mais par contre après il fallait, enfin toute la méthode pour arriver à le changer, c'était un peu long et compliqué. Mais non, là c'est terminé. Si t'as pas passé ton DEA de remontage d'iPhone, c'est impossible.
Bah, c'est ça,
et si t'as pas les bons outils, c'est impossible aussi. Et le problème c'est que la vitre et l'écran sont maintenant solidaires.
Et on m'a recommandé d'aller chez iFixit, que je connais bien sûr, qui fait des kits pour tout ça. Mais d'une part, c'est compliqué à faire. Ça coûte moins cher, mais ça coûte quand même un petit peu de sous. Et puis, si tu te plantes, c'est vraiment très difficile à faire, quoi. C'est des trucs très délicats, etc. Et bon, j'ai passé l'âge.
Parce qu'après, si tu casses l'écran qui se trouve derrière,
là
tu auras une bonne motivation pour changer de téléphone.
C'est vraiment 300 à 400 euros pour changer la vitre / l'écran. Alors, il y a des réparateurs qui le font en France pour un peu moins cher, mais qui ne sont pas les réparateurs agréés Apple, etc. Enfin bon, bref. Donc, je vais garder mon écran cassé d'Apple pendant un moment, et puis on verra s'il se met à plus marcher, j'aviserai. Il y a le SE2 qui arrive là bientôt, qui devrait coûter le prix de plus ou moins du changement d'écran de l'iPhone 10.
Voilà.
Donc, bon.
C'est ça.
J'avoue que... bon, mais j'espère que si c'est une fois tous les 10 ans, ça va encore, mais on va voir, peut-être que je rentre dans une loi des séries. Bref.
Là, tu es en train d'essayer de rationaliser la dépense qui se trouve face à toi en disant, finalement, en lycée sur 10 ans, je m'en sors.
C'est ça, exactement. Non, mais je ne vais pas dépenser, je vais juste mettre l'écran, le Rhino Shield, là, l'écran de protection, pour qu'il ne se casse pas plus, et puis ça va aller 8 mois, facile.
Et le prochain, tu lui mettras un écran de protection dès sa sortie de la boîte.
Alors justement, c'est ça le truc, c'est que je ne pense pas. L'intérêt de ces iPhones fins et de ces téléphones, même chez Android, quand ils sont fins et quand ils sont si jolis et si bien designés, si tu le mets dans un étui de protection, tu perds tout l'intérêt du truc, tu vois. Donc
je te parle pas d'un étui, hein, juste une vitre de protection.
Je sais pas, parce que la vitre, je sais pas si elle
protège. Ou un film de protection.
Ah, c'est ce que je vais faire, c'est un film.
Ça, j'ai testé pour vous. Alors, il faudrait que je retrouve la marque Flute. Quelque chose.
Bah, c'est Rhino Shield, celui que je vais prendre, justement.
Pourquoi pas? Il y avait un truc français, mais malheureusement, tu pouvais pas l'installer toi-même, donc il le faisait. Mais par contre, moi, j'avais fait ça sur l'iPhone 11. À lequel? Enfin, peu importe.
Alors, est-ce que ça change pas le toucher? Est-ce que ça change pas un petit peu l'aspect visuel?
Mais moi, j'avais même demandé à avoir un film mat, hein, et je trouvais ça très agréable, hein, et ça glissait moins dans les mains, et pour l'avoir fait tomber plusieurs fois, l'écran était absolument nickel, rien n'a bougé, quoi.
Non, mais tu sais, moi, je l'ai fait tomber plusieurs fois aussi, le mien. C'était juste, là, il est vraiment tombé dans les escaliers, sur du béton, dans la cave.
Aïe.
Mais sinon, je l'ai fait tomber plusieurs fois. C'est pas la première fois. Enfin, tous mes téléphones sont tombés sur le sol, sur le bois, enfin, tu vois, mais... Bon, bref, voilà les aventures des téléphones de Patrick.
On n'a pas un peu d'actu aussi cette semaine.
La semaine prochaine, je vous parlerai donc de ma protection d'écran, et je vous dirai si elle est bien ou pas, et si je penserai à en utiliser pour mon prochain téléphone avant qu'il ne se casse, plutôt qu'après. Patrick, va-t-il apprendre? La suite au prochain épisode. Parlons un petit peu de Michael Bloomberg, tiens. Candidat aux primaires et aux élections américaines, parce qu'il se passe des choses intéressantes dans les élections américaines. L'un des sujets dont je voulais parler, c'était cette application de vote du caucus. Alors, résumons. Il y a aux États-Unis une élection cette année, l'élection présidentielle en novembre, mais avant ça, il faut que les deux partis principaux, qui sont en fait les deux seuls partis, choisissent le candidat à envoyer à cette élection. Et méthode pour choisir, c'est des primaires qui se passent de différentes manières dans les différents États. C'est parfois très compliqué, mais elles sont hyper importantes parce que, comme vous le savez certainement, aux élections américaines, il y a un seul tour. Donc, on n'a pas le droit de se planter. Il y a deux candidats, on doit choisir une fois et c'est tout. On ne peut pas, comme on le fait en France, on va dire, allez, le premier tour, on choisit la personne qu'on veut et le deuxième tour, on vote contre la personne qu'on ne veut pas. C'est souvent
pas comme ça,
un petit peu comme ça que ça se passe en France et dans les pays, on va dire, civilisés qui ont des élections un petit peu rationnelles, un minimum rationnel, même si elles ne sont pas idéales. Gardez vos emails, je sais qu'il y a d'autres méthodes d'élection qui sont intéressantes aussi. Mais aux États-Unis, ils n'ont qu'un tour. Donc les primaires sont essentiel parce que c'est en fait un petit peu leur premier tour, les primaires. Ils en font généralement pour le parti qui n'a pas un président en place. Le président en place, lui, est souvent représenté. Il se représente ou alors si c'est déjà son deuxième tour, bah, il y a aussi une primaire dans son parti. Et donc, elles sont hyper importantes. On avait la semaine dernière l'élection en Iowa, enfin les primaires en Iowa, donc la première primaire de la saison, et ils ont fait voter dans le parti démocrate avec une application qui avaient vraiment été écrites hyper vite, sans être testées parce qu'ils étaient complètement parano des hacks et des leaks. Et donc, ils ont fait exactement le contraire de ce qu'il fallait. Ils l'ont fait tester par personne. Et donc,
la sécurité par l'obscurité, toujours une bonne idée.
Exactement. Ils l'ont fait tester par personne. Ils ont caché le code. Ils ont trop peu payé les gens qui écrivaient l'app. Ils avaient trop peu de temps pour l'écrire. Enfin bref, ça a été une catastrophe. Heureusement, ils avaient des traces papier aussi des votes, donc ils ont pu recompter. Vous savez que souvent, je parle de sujets tech et je dis, bon, pour ces choses, la tech est intéressante à utiliser, ça peut apporter des choses. Pour les élections, c'est vraiment le truc où je suis hyper rétif et où je dis, au minimum, il faut avoir une trace papier parce que c'est un sujet trop important et il faut qu'on puisse avoir une alternative pour le cas où les choses se plantent. Et le tout numérique dans les élections, c'est ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une super bonne idée. Et ben là, c'est encore une preuve que c'est vraiment pas une super bonne idée. Heureusement, ils avaient des traces papier. Ça a quand même eu une influence énorme sur le processus parce que les candidats qui gagnent se servent de cette première étape où ils ont gagné pour mettre en avant leur victoire et faire de la communication pour les étapes suivantes des primaires. Et donc là, le fait qu'ils aient dû recompter, ils ont eu genre 24-48 heures avant d'avoir les résultats, ça a une énorme influence sur le déroulement de la primaire et donc sur le processus démocratique. Donc c'était vraiment une erreur énorme et grossière. Et je voulais qu'on parle un tout petit peu de ce sujet, mais en observant avant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui étaient hyper intéressantes du côté de Michael Bloomberg. Donc, je vais parler un petit peu de ça, mais peut-être si tu as un mot sur le fiasco de l'élection, enfin du caucus de la primaire en Iowa.
Au début, pour tout dire, pour l'avoir suivi d'un peu près, on comprenait pas exactement ce qui s'était passé, sauf que apparemment l'application était buggée et avait pas été testée. J'ai envie de dire dans les dimensions de son utilisation réelle, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient, je crois, 1700 bureaux de vote, parce que c'est un caucus, c'est différent, mais peu importe.
Oui, un caucus, je vous rassure, personne ne comprend exactement comment ça marche, y compris les Américains.
C'est un truc assez facile, on se réunit dans un gymnase, tout le monde se groupe par affinité en disant « moi je soutiens celui-là, je soutiens celui-là ». Chacun fait une sorte de speech aux autres en disant « non mais regardez, venez avec nous ». Il y a un seuil au-dessous duquel tu peux pas, t'es pas éligible, entre guillemets, t'es pas viable, comme ils disent. Et après, les gens des candidats pas viables se répartissent dans les troupes des autres candidats à la primaire, et voilà. Et alors c'est rigolo parce que c'est vraiment comme de l'élection et de l'influence très physique, c'est-à-dire que les gens vont voir en disant regarde, il y a ces deux mecs là, ils étaient venus pour, je sais pas, Amy Klobuchar ou Jerry Yang ou des gens comme ça, allons les voir pour les convaincre de venir avec nous. Enfin, c'est très bon, c'est de la démocratie très high touch, c'est vraiment. Et à la fin on compte et on dit bah voilà, ça fait tant pour lui, tant pour elle, tant pour lui. Alors c'est bizarre parce que là, pour l'instant il y a énormément de candidats à la primaire, il y en avait beaucoup moins les élections précédentes, et à la fin on compte et on dit voilà, donc en nombre de délégués ça ferait tant, bref, et on renvoie les chiffres au parti démocrate de l'Iowa. Le problème est maintenant on a plus d'informations sur exactement ce qui s'est passé avec l'app. D'abord c'était une application, pour l'installer il fallait faire comme tu sais quand on installe des applis en version bêta, il fallait utiliser Test Flight sur iOS.
C'est le processus pour installer des applications qui ne sont pas disponibles sur l'App Store, en fait.
Exactement. Ouais. Et alors, en plus, il y avait un système de double validation par des codes différents. Enfin bref, le problème, c'est que personne... Et les gens avaient reçu les liens le jour même ou au mieux la veille. Donc, il y en avait plein qui, le jour du truc, n'avaient même pas installé l'app, ne savaient pas comment elle fonctionnait, etc. À côté de ça, on leur dit, mais s'il y a un problème, vous appelez ce numéro. Mais qui était aussi le numéro qui était le secours au cas où ils n'arrivent pas à envoyer leur truc par l'application pour les donner au téléphone. En parallèle, on leur a dit, mais c'est pas grave, prenez des photos de vos trucs, envoyez-les par mail. Et ça, ils avaient complètement oublié qu'ils avaient donné cette consigne. Et donc, le lendemain, ils ont ouvert la boîte mail en disant « Ah, il y a 800 messages avec des photos de travers !» Bref, et surtout, quand ils ont commencé à faire les comptes, ils avaient des résultats qui étaient incohérents. Bref, c'est un fiasco total. Et c'est dur parce que l'Iowa se bat pour être le premier État de la primaire à chaque fois. Bref, bon, voilà, peu importe, hein, parce qu'au final, ils vont y retrouver leur
petit. Ils ont les résultats quand même, mais c'est une image catastrophique pour le Parti démocrate. Surtout dans ce contexte où la tech et la compétence en tech, bon, c'est pour ça que vous écoutez cette émission, est importante dans le monde tout court. et dans l'image, y compris en politique. Oui, il tape sur les géants de la tech tout le temps, mais il faut savoir l'utiliser. Et en particulier dans un monde où le président Trump a gagné l'élection précédente, au moins en partie et sans doute en grande partie, grâce à son utilisation ou l'utilisation hyper intelligente de la tech et du ciblage sur Facebook notamment par sa campagne. Donc le fait de même pas savoir comment gérer, alors c'est très local, c'est le parti démocrate en Iowa qui a développé cette app, mais évidemment Trump et les autres ne se privent pas de dire voilà, ils savent même pas gérer une app pour une élection maintenant alors que c'est tellement important, imaginez comment ils vont gérer le pays. C'est une petite pique qui, mine de rien, a son fond de vérité. Et donc, on en
c'est
vient...
des choses qu'on va oublier assez vite parce qu'il y a énormément de primaires. Donc, une primaire chasse l'autre. Donc, ça va, je pense que ça va s'effacer un peu. Mais en revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Trump, lui... Enfin, j'ai envie de dire qu'il n'est pas entré en campagne encore. C'est vrai et c'est faux parce qu'en fait, il est en campagne
tout le temps
depuis 3 ans. Il est tout le temps. Moi, je ne comprenais pas comment un président en exercice, au bout d'un an, se met à faire des meetings. Genre, pourquoi ? Mais non, c'est son truc. Et lui, par contre, a des moyens qui sont proches de les limiter. Et surtout, on a toujours tendance à le prendre pour un clown, mais il a quand même des gens vraiment compétents autour de lui, surtout sur ce qui est le ciblage des publicités en ligne, etc. Et c'est quand même, on est sur une élection qui a tellement rien à voir avec la nôtre en termes de mécanisme, parce que chez eux, c'est une sorte de suffrage censitaire, c'est-à-dire que ce sont de grands électeurs qui au final élisent le président. Et des grands électeurs qui n'ont pas la même assise, j'ai envie de dire, représentative selon l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des gens, il y a aux États-Unis des sénateurs qui représentent 200 000 personnes, alors que le sénateur qui est assis à côté d'eux en représente 2 millions. Donc, en fait, la façon dont tu fais campagne, elle n'est pas juste sur le chiffre global que tu espères ou le nombre d'électeurs que tu as au global. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est État par État de gagner les quelques États dont on sait qu'ils peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'à chaque fois, on se concentre sur l'Ohio, la Floride, la Pennsylvanie, des choses de ce genre. Et pourquoi la campagne se fait très différemment. Moi, la présidentielle précédente, quand on a dit « Oui, mais regardez, Trump, il a gagné alors qu'il n'avait pas la majorité des votes. » Oui, mais on s'en fout. Je veux dire, c'est comme un examen. Si tu sais ce qui va passer à l'examen, tu révises pour l'examen. Tu ne révises pas pour être le meilleur.
Bah, c'est-à-dire, pour expliquer un petit peu plus, c'est pour s'assurer que chaque État est bien représenté. Et ils ont établi le nombre de grands électeurs.
Ça surreprésente les États de l'intérieur des États-Unis très largement.
Parce qu'ils sont maintenant moins peuplés que des États où il y a beaucoup plus de population. Et le nombre de grands électeurs qui avaient été établis en fonction des populations à l'époque, si je me souviens bien, n'ont pas été mis à jour. Et surtout, on ne peut pas... Le problème, c'est que si on votait au suffrage... on va dire classique
universel.
Comme en France, universel tel qu'on le connaît dans les autres pays, ça, en fait, les États de l'intérieur n'auraient pas vraiment leur mot à dire parce qu'il y a tellement de monde en Californie, enfin sur les côtes, que les États de l'intérieur n'auraient aucune importance. Je schématise.
Non, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire les États de l'intérieur des États-Unis disent « nous sommes l'Amérique réelle » et les côtes disent « ouais, vous êtes bien gentils, mais nous sommes tout le poids, l'importance économique, enfin bref, donc
on pourrait débattre de cet aspect pendant.
Moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Je serais plutôt candidat qui passe. Enfin, tu t'imagines si on faisait la même chose chez nous, où tout
ouais,
à coup,
peu...
tu vois, la Creuse aurait autant de représentants que l'Île-de-France. Je schématise terriblement.
Oui, on schématise exemple. Beaucoup.
J'aime
oui,
bien mais... la Creuse en plus. Hein, j'ai rien contre.
mais il y a, disons qu'il y a des raisons historiques à ce fonctionnement, mais. Ça a une autre conséquence, et effectivement sur la tech, on y revient, et sur la possibilité de cibler les communications d'une manière qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, ou beaucoup plus difficile. Et visiblement, Mike Bloomberg, donc un millionnaire, milliardaire...
Un vrai milliardaire. Il y a vraiment des vrais milliards.
C'est vrai.
C'est pour ça que Trump est très vexé quand on lui parle de Bloomberg.
Et donc, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelqu'un de très très riche qui est dans le parti démocrate, donc il est plutôt à gauche au niveau américain, et il est dans la campagne, et il utilise son argent et la tech de manière... Alors, on ne sait pas si c'est très intelligent parce qu'on n'a pas encore les résultats, on le saura dans quelques mois, mais de manière très... intéressante en tout cas. D'une part, il semblerait qu'il y ait eu hier un conference call, un appel avec des centaines de présidents et de leaders de la Silicon Valley pour leur demander des gens compétents qui viendraient bosser pour sa campagne à New York. Mais bosser, pas juste venir 2 heures et donner 3 conseils, mais bosser vraiment à plein temps parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire et donc ils se tournent vers les gens qui sont compétents dans la tech spécifiquement pour leur demander, non pas de l'argent, mais des codeurs, des talents, quoi. Et ça, c'est intéressant d'une part. On va voir s'ils vont en recevoir. J'imagine que oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait personne qui soit intéressé par cette idée. Et d'autre part, encore plus intéressant, ils sont en train d'utiliser des micro-influenceurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les micro-influenceurs ? C'est des gens qui ont une certaine audience, soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit sur Twitter, soit ce que c'est, soit sur Snapchat, enfin, ça peut être de n'importe quel média. Et ils ont entre eux, on va dire, 1 et 100 000 followers. Et donc, ça peut être des gens qui ont 1000 personnes qui les suivent, à qui ils vont donner $100 ou $150 pour expliquer pourquoi ils pensent que Bloomberg est le meilleur candidat pour la primaire et voire à terme pour l'élection présidentielle s'il arrive à cette étape. Et donc, c'est un moyen qui est encore différent de ce que faisait Trump et de ce que fait toujours Trump, qui, lui, utilise du micro-ciblage sur Facebook, notamment, en ciblant des communautés très spécifiques et des types de profils très spécifiques. Là, Bloomberg parle, il fait une sorte de publicité, de sponsoring d'influenceurs pour dire du bien de lui. Et c'est pas considéré comme de la pub, enfin on sait pas très bien comme quoi c'est considéré, je crois pas que ça soit annoncé comme de la pub par les influenceurs, parce qu'ils disent pas ce qu'il faut dire aux influenceurs, ils leur disent juste, bah regardez notre campagne et dites ce que vous pensez qui est intéressant. J'imagine qu'il y a des guidelines assez précises, mais disons qu'ils flirtent avec, je sais pas si on peut dire la légalité, mais avec les pratiques établies, et il va aller chercher des gens vraiment qui vont parler à 500, 1000, 2000 personnes, donc vraiment des micro-influenceurs. Je sais pas si ça donnera quelque chose au final, mais c'est une méthode vraiment intéressante et différente de ce qu'on a vu jusqu'ici.
En tout cas, c'est nouveau. Et, ouais. Et c'est vrai que d'ordinaire,
je précise, on parle de 100-150 dollars, mais il déverse des millions dans sa campagne. Donc, il ratisse très très large. Il a des centaines et des milliers de ces micro-influenceurs qui sont actifs. Donc, c'est pas juste qu'il va voir 3 personnes, on l'a compris, mais c'est celui qui met le plus d'argent dans la campagne de sa fortune personnelle. Donc, ça représente beaucoup, beaucoup d'influence, justement.
Oui, c'est pas like, RT and follow, hein. C'est un peu plus sérieux que ça. Surtout que lui, il arrive quand même avec un angle un peu différent. Il a été maire de New York, donc les gens le connaissent. Il a déjà une marque connue. En plus, tout le monde connaissait Bloomberg avant même que Mike Bloomberg soit maire de New York. Il arrive en plus avec une sorte de plaidoyer. Lui, il dit, moi, je viens juste pour une chose. Je viens juste pour arriver à battre Trump. Et il dit, comme tous les autres d'ailleurs jusque-là, dit évidemment, quel que soit le candidat démocrate qui sortira des primaires, je le soutiendrai. Non seulement je le soutiendrai, mais j'ai déjà mis en place mon budget de campagne. Et même si je ne suis pas choisi par la convention démocrate pour être le candidat, eh ben le staff que j'ai embauché sera au service de celui, à mes frais, au service de celui qui sera désigné. Donc c'est intéressant. Ça, en tout cas, c'est un message politique intéressant parce que c'est pas moi. Ce qui est quand même pourtant le vrai problème de ces primaires, parce que c'est le moment où tous les candidats potentiels se tapent les uns sur les autres en disant « je suis le meilleur ». Et c'est toujours difficile de refaire la synthèse et le consensus une fois que tout ça est terminé. Mais je ne suis pas certain que ce sera lui, parce que lui en plus ne se présente pas auprès à toutes les primaires, etc. Lui vise une chose, c'est le 3 mars. C'est ce que les Américains appellent le Super Tuesday. C'est ce moment où il y a, je crois, plus d'une douzaine d'États qui se prononcent, tant d'ailleurs côté démocrate que côté républicain. Il y a beaucoup moins de suspense côté républicain, disons-le clairement.
Ah bah, Trump est le candidat établi, hein. C'est pas, il y a pas de.
Il y a d'autres candidats à la candidature, mais qui font des scores qui sont dans l'épaisseur du trait, quoi. Et donc. Bloomberg arrive avec une stratégie qui est intéressante, même si, encore une fois, et ça c'est des choses qu'on ne voit pas, les autres candidats sont très 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 fort souvent au niveau local pour aller mobiliser. Ça, quand tu fais des caucus par exemple, ça tient à pas grand chose. Hein. Si tu arrives à bien mobiliser dans, je sais pas, 50 bureaux de vote, ça peut faire totalement la différence au niveau de l'État. Et c'est winner takes all. C'est, tu prends.
Et voilà. C'est pour ça que c'est tellement intéressant de voir cette manière de se concentrer sur des tout petits groupes. Et ce qui est peut-être un petit peu, je ne sais pas si c'est inquiétant, mais c'est en tout cas intéressant. Il y a toujours eu une utilisation massive de la communication des campagnes politiques. Enfin, ça, c'est une évidence de le dire, la radio, la télé, les journaux, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment sur la tech que ça se repose et sur des trucs aussi. Alors, on se souvient que les campagnes d'Obama avaient excessivement bien utilisé les réseaux sociaux à l'époque, mais à l'époque, c'était bah, on a un compte Twitter, on a un compte Facebook. Ça se limitait à ça.
Et la nouveauté suffisait à faire jeune, quoi.
C'est ça. Et puis à atteindre les jeunes. Trump a micro-ciblé avec de la publicité, donc toujours avec les réseaux sociaux. Là, Bloomberg, il utilise un autre type de ciblage qui est de l'endorsing il se fait valider par les micro-influenceurs, mais tout ça tourne toujours autour de la tech aujourd'hui, et c'est normal parce que, comme on dit souvent, la tech influence tout et change tout, y compris que ce soit Uber pour les transports, ou Amazon pour les achats, ou les réseaux sociaux pour la communication, et là encore, c'en est une preuve. Et du coup, ce que ça amène comme réflexion, c'est est-ce que les hommes et femmes politiques peuvent faire leurs élections en achetant, en choisissant, est-ce que c'est comme ça qu'on gagne une élection, en choisissant les bons moyens de communication par ces intermédiaires tech? Est-ce que c'est ça aujourd'hui l'élection aux États-Unis? Ça a l'air d'être...
A priori non, et on le voit d'ailleurs quand on détaille les comptes de la campagne Bloomberg, c'est-à-dire que payer des influenceurs $150 en disant vous écrivez le message que vous voulez, mais attention, hein, ils sont payés que si la campagne le valide, en gros dit oui, ça on prend, mmh. ce qui est un boulot terrible parce que c'est $150 à la fois, un micro-influenceur à la fois. Pendant ce temps-là, il a dépensé déjà, je crois, $325 millions en pub télévisée. Donc c'est quand même comme ça que la campagne se fait aux États-Unis encore. La stratégie des micro-influenceurs est un truc vachement intéressant pour toucher les gens qui ne regardent pas la télé.
Exactement, et c'est ça qui peut être déterminant. En tout cas, on pense, sans avoir de preuves formelles, que ça a été déterminant pour Trump la dernière fois et pour Obama, même si là, ça commence à dater il y a quelques années. Bon ben voilà, maintenant vous savez comment ça se passe et on espère que ça ne se passera pas de la même manière en France. En tout cas, on a des lois qui régissent ça de manière un petit peu plus sévère.
Ouais, chez nous, c'est un peu plus encadré. Hein, voilà. Même le financement des campagnes, combien tu peux dépenser. Nous, on n'a pas de pub à la télé. Exactement. Mais c'est vrai que par contre, sur les pubs sur Internet et tout ça, là, il y a peut-être des choses... Enfin, voilà.
Bon, on arrive bientôt dans 2 ans à une nouvelle campagne pour le pays. J'aimerais adresser un message d'amitié à la campagne de Monsieur Mélenchon. Si vous avez besoin de faire passer des messages, sachez que je suis évidemment disponible.
$150
Écoute, je suis quand même entre 1 et 100 000 dans les chiffres, donc je crois que je suis un micro-influenceur. 150, ça peut se négocier, pourquoi pas. Si je peux recevoir un message de Jean-Luc, peut-être, on aurait des choses dont on pourrait discuter, ça pourrait être intéressant. En parlant de publicité, on en plaisante, mais je voudrais vous parler un tout petit instant du soutien de l'émission, du soutien avec Patreon. Vous savez, on en parlait la semaine dernière, cette émission, c'est un petit peu, l'analogie qu'on fait, c'est un magazine où il y aurait 2 pages de pub. C'est-à-dire que oui, il y a de la pub maintenant, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de pub, et si les gens se mettent à ne plus acheter le magazine, eh ben, le magazine, il ne va pas exister très longtemps. Et les magazines qui ne sont financés que par la pub, on sait ce que ça donne. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut et ce n'est certainement pas ce que je veux faire. Et le truc, c'est que j'ai une image de cette émission qui ne s'arrête pas à une image de petit podcast qu'on fait dans sa chambre pour être parce qu'on aime bien. Il y a des podcasts qui font ça et c'est super cool, mais moi par exemple, vous le savez peut-être pas, mais je paye les animateurs réguliers qui viennent dans l'émission, qui sont là régulièrement, pas tout. Alors, il y a les animateurs invités, il y a les animateurs réguliers qui sont payés à la pige. Et ça, c'est un truc que j'ai voulu faire parce que je conçois le podcast pas juste comme un truc qu'on fait comme hobby. Et il y a plein de gens qui font des podcasts et des podcasts indépendants qui font ça comme... bah, comme hobby, et c'est très cool, et ils ont des petits financements, ils font ça par, en association, mais je crois que le podcast peut aller plus loin, et moi, j'ai pas envie de m'arrêter. C'est pas le podcast, bon, bah, on fait un petit peu d'émissions comme ça pour s'amuser, et donc, c'est tout ce qu'on va faire, et on n'envisage pas la chose pour aller plus loin. Moi, je veux payer les gens, je veux faire des émissions de qualité, je veux passer beaucoup de temps à réfléchir, à réunir les sources d'informations, à les trier, avoir des gens compétents pour en parler. Et ça, c'est, bah, comme je le disais, si vous avez un magazine qui a un petit peu de pub et le reste, vous le payez, et bah, on peut le faire. S'il n'y a personne qui paye pour le magazine, et bah, c'est juste pas possible de faire la même qualité, le même type de travail. Donc, je vous encourage, si vous appréciez la qualité, à ne pas vous dire « bon, bah, c'est pas la peine, on laisse les autres ». Oui, évidemment, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de financer l'émission, et il n'y a aucun souci. Il y a plein de gens qui vraiment se disent « non, moi, franchement, cette émission, elle ne me plaît pas vraiment, je ne veux pas la soutenir ». Ok, pas de problème. Mais si elle vous plaît, si vous appréciez le contenu, eh ben, il ne faut pas s'arrêter. Et moi, c'est ce que je veux faire passer comme message. Moi, je ne suis pas en train de m'arrêter. Moi, je veux continuer à avancer, et j'ai besoin de vous pour continuer à avancer. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'il y a une certaine qualité, si vous ne retrouvez pas ce type de discussion, ce type de qualité, et j'espère qu'en plus on vous fait passer un bon moment, si vous ne retrouvez pas ce package ailleurs, eh ben, ça veut peut-être dire que ce magazine, il vaut la peine de lui donner un petit dollar par épisode. Voilà, c'est le prix d'un mini café, ou alors le prix d'une bière, ou le prix de quelque chose, mais un petit dollar par épisode.
En Finlande, c'est le prix de rien. Hein. Disons-le très clairement.
En Finlande, c'est...
Patrick, parce que vous n'imaginez pas le coût de la vie en Finlande.
Mais
il y allait se retirer dans une forêt au fin fond de la Pampa, que dis-je, voilà, avec l'espoir de trouver une vie meilleure et moins chère. Et bon,
on fait tous des erreurs. Le bon calcul. Mais oui, donc bref, voilà, le message est passé. Si vous appréciez l'émission, eh ben, pour qu'elle existe, il faut la soutenir. Donc je vous remercie de considérer la chose. Patreon.com/RDVTech. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend 2 minutes. C'est vraiment super facile. Donc vous pouvez aller y faire un tour.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tiens, parlons un peu du coronavirus. Est-ce que il y a le Mobile World
Congress?
Personne
n'en parle, donc je pense que le
non,
moment
mais
est venu.
C'est pas tout à fait
lièvre.
C'est pas tout à fait un sujet tech, donc on va pas en parler longtemps. Mais il y a une influence sur, d'une part, la production en Chine qui s'arrête et tout est fabriqué en Chine, donc c'est compliqué. Maintenant, elle commence un petit peu à reprendre, mais le Mobile World Congress risque d'être déserté parce qu'il y a plein de sociétés qui ont décidé de ne pas y aller à cause de l'épidémie de coronavirus. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est une hystérie qui n'est pas justifiée, parce que le coronavirus, bah, il n'est pas plus... Et on l'entend ici et là, mais il n'est pas plus mortel que la grippe, voire moins. Je ne suis pas sûr de comprendre si j'ai raté un truc ou si c'est vraiment quelque chose de très très grave, ou c'est juste les gens se disent, bon, bah, juste pour être sûr, on va pas y aller, mais le Mobile World Congress, enfin, Amazon, Ericsson, Sony, LG, plein de sociétés ont décidé qu'ils n'iront pas au Mobile World Congress. Moi, j'ai l'impression que c'est pas hyper justifié, mais je sais pas si j'ai les bonnes informations, quoi.
Moi, je suis assez ambivalent sur cette histoire. J'avais honnêtement la même vue au début en disant non, mais enfin oui, d'accord, ok, c'est un virus, ok, il y a des gens qui meurent, mais regardez les ratios. Si on est un peu comme juste face à une grosse grippe, mais le problème c'est que oui, tu vois, la grippe espagnole c'était aussi juste une grosse grippe et ça a quand même tué des dizaines de millions de personnes parce que c'est quelque chose pour lequel on a finalement assez peu d'armes thérapeutiques, on a en tout cas pas de vaccin et apparemment ça. On prend pas le chemin, je veux dire, à très court terme. Ce serait les labos maintenant disent au moins 12 à 18 mois avant de voilà. Donc pour tous les gens qui ont joué sur leur iPhone à Plague Inc, vous voyez, mais oui, parce que c'est quand même la première chose qu'on a tous fait en disant mais comment ça remarche déjà sous ah oui d'accord je lance un virus alors je pars de la Chine ah oui c'est vrai que oui ça se répand pas mal.
Pour ceux qui ont pas entendu, c'est Plague Inc qui est un jeu sur téléphone notamment. Qui est un jeu qui est sorti il y a quoi, 3 ans, 4 ans, peut-être même plus, et il s'est fait redownloader des millions de fois parce que justement, avec l'épidémie, les gens se sont mis à y rejouer. C'est un jeu dans lequel il faut faire diffuser des épidémies sur le monde entier et il y a plein de mécaniques qui sont liées à ça.
Et en gros, quand tout le monde est mort, tu as gagné. C'est, voilà. Mais donc voilà, j'étais plutôt sur cette position-là en disant bon, ça a l'air assez circonscrit dans l'espace, tout ça. Et finalement, on s'aperçoit. Alors d'abord, il y a des choses où on a encore des doutes. On a des doutes sur les chiffres qui nous viennent de la Chine parce que on ne sait pas. Mais ça, c'est aussi c'est assez logique dans ce genre d'épidémie. C'est-à-dire que, en plus, t'es sur un truc où c'est pas Ebola. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une fièvre hémorragique. Les gens se mettent pas au milieu de la rue à vomir du sang. C'est pas un truc qui transforme les gens en zombies. C'est-à-dire que tout à coup, tu as un peu de fièvre et tu tousses. Hein. Peut-être est-ce juste le rhume que tu as chopé à CIS il y a un mois comme moi. Peut-être est-ce juste la grippe ou peut-être est-ce le coronavirus. Donc, c'est des symptômes qui ne sont pas très distinctifs. C'est pour ça qu'il faut faire des tests précis pour le faire. Et quand tout à coup, tu as tous les gens qui ont de la fièvre, un peu mal à la gorge et qui toussent, qui se présentent à l'hôpital, c'est dur de les... Donc, il y a probablement des cas de gens qui étaient malades et qui ont guéri tout seuls, plein. Il y a peut-être des gens qui sont morts et on dit bah ils sont morts de quoi, bah ça devait être la grippe. Bref, c'est dur d'avoir une confiance absolue dans les chiffres.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a pas forcément besoin de paniquer, mais c'est peut-être pas non plus le moment de se réunir tous dans 25 mètres carrés et de se faire des bisous, en particulier avec beaucoup de fournisseurs qui viennent de Chine. Et oui, donc peut-être que pourquoi pas éviter le Mobile World Congress. C'est pas la pire des idées, même si c'est pas la peine forcément. Ça veut pas dire qu'il faut paniquer dans le monde entier pour toutes les raisons qui existent, quoi.
Non, je pense qu'il faut paniquer un peu, mais j'avoue que moi j'ai mon billet pour aller à Barcelone et je me gratte toujours la tête en me demandant est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que c'est ce qu'on fera de mieux. Alors il faut voir quand même que bon, les exposants qui pour l'instant ont jeté l'éponge sont, j'ai envie de dire, à part Ericsson, des exposants pour ce salon-là de seconde zone, c'est pas eux qui font le salon. C'est-à-dire que Nvidia, bon, c'est pas très grave. Enfin voilà, Amazon, en fait, c'est Amazon Web Service, c'est important, mais c'est pas crucial. Bref, Ericsson, quand même, alors ils font plus de smartphones, mais sur l'équipement
télécom, réseau, oui.
Et puis, il faut avoir été au salon pour voir la taille du stand Ericsson, c'est un truc géant. Donc là, quand même, c'est marquant. Peut-être qu'ils se sont dit, on peut sauter cette année parce que nous, l'essentiel de nos deals sur la 5G sont faits. Et puis finalement, nous, on parle à quelques centaines de personnes qui sont les opérateurs. On n'a pas besoin d'aller s'exposer à 110 000 personnes. Bref, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? LG, oui, enfin LG, les smartphones chez nous, c'est pour ainsi dire terminé.
Je crois qu'on maintient.
C'est-à-dire que Xiaomi sera là et fera sa conf. Huawei sera là, je peux vous le dire. Mais au prix d'un luxe de précaution absolument ahurissant, c'est-à-dire que l'essentiel des gens que Huawei, par exemple, va envoyer là-bas sont déjà là-bas. Ils les ont envoyés avec plus de 2 semaines d'avance, avec pour consigne de s'enfermer dans leur chambre d'hôtel pendant 14 jours. Pour en gros se faire une auto-quarantaine avant le début du salon, pour être sûr que, etc. Et là, tout à coup, on se met à avoir des papiers et des chiffres qui nous disent, bon, alors, ce qu'on s'était dit sur la période d'incubation qui était de 5 jours, a priori, ouais, enfin, on n'est pas si sûr que ça. C'est-à-dire qu'on a, on a quand même trouvé des gens qui développent des symptômes 28 jours après l'infection. Ah, bah, ça va être un problème. Et des gens qui sont capables d'en infecter d'autres pendant la période d'incubation. Ah, alors ça va être un problème aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout à coup, on se dit, c'est peut-être pas ça qui va faire exploser l'infection en Europe. Moi, j'étais surtout en train de regarder, parce que c'est pas le seul salon professionnel qui se passe en Europe ce mois-ci. Il y en a plein. Tu regardes
le
calendrier.
C'est plus visible, j'ai l'impression, plus gros.
Ouais, alors à voir, parce que par exemple, sur des choses qui mettraient en jeu beaucoup d'exposants chinois, cette semaine à Paris, tu as plein de salons sur le textile. Moi, je dis ça, je dis rien.
On s'éloigne un peu de la tech, Cédric.
Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant, et surtout c'est intéressant de voir à quel point ce virus met en danger toute la chaîne d'approvisionnement. Alors c'est vrai que c'est l'épicentre du virus se trouve, c'est pas à Shenzhen, c'est pas tout ça, mais c'est quand même à Wuhan où on a des usines de d'écrans plats par exemple, d'écrans OLED, etc. Et où on s'aperçoit en fait que tout ce monde de la tech est totalement interconnecté, c'est-à-dire que chaque grande marque va avoir des milliers de fournisseurs, c'est-à-dire que ce que vous avez dans, quand vous avez un smartphone dans la main, c'est le résultat du travail de centaines et centaines d'entreprises et des fournisseurs qui ont eux-mêmes des centaines de fournisseurs. Bref, finalement, si on bloque un des éléments de la chaîne de manière très physique, en l'occurrence Wuhan et la région de Hubei, mais pas seulement, tout à coup, voilà, c'est-à-dire que toute la chaîne s'enrhume.
C'est-à-dire que il y a toujours un des fournisseurs qui est dans une des régions où ça peut poser problème, ça vient de partout. Donc s'il y a une étape, c'est un maillon faible qui fait que le téléphone, puisqu'on parle au hasard de téléphone, on peut pas le faire parce qu'il manque tel élément essentiel. Donc ça n'a pas d'importance que le téléphone ait des pièces qui viennent d'autres endroits aussi. On a besoin de celle qui vient de cet endroit-là. Donc tant que les usines ne recommencent pas à marcher à cet endroit-là, on peut plus faire de téléphone ou de
surtout l'un des grands savoir-faire des grandes marques, c'est-à-dire des Apple, des Samsung, etc., et des marques chinoises, c'est ce qu'ils appellent la supply chain, c'est-à-dire l'approvisionnement. Et ils ont tous des scénarios comme ça parce qu'il y a des catastrophes naturelles, il y a des mouvements sociaux, il y a des grèves, il y a des faillites d'entreprises. Donc pour chacun de leurs fournisseurs, en gros, ils ont un plan A, un plan B, un plan C. Et le problème, c'est que on est face à une crise qui invalide tous tes plans d'un seul tenant. D'abord parce que ton usine d'assemblage, elle est arrêtée. Et puis, de toute façon, même si elle était ouverte, qu'est-ce que tu ferais? T'es plus alimenté en écran, t'es plus alimenté en mémoire, c'est-à-dire sur des choses qui sont centrales pour les appareils que tu veux produire. On voit qu'on va se retrouver face, à une pénurie d'AirPods, à une pénurie de Nintendo Switch. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Oui.
Et là, c'est un vrai, vrai souci pour les marques qui déjà savent qu'elles perdent des ventes par million. Hein. On dit 2 millions d'iPhone, et encore, c'est presque une vieille statistique maintenant. Mais côté Huawei, on est à 6, 7, peut-être 10 millions de ventes qui ne se feront pas. Donc, c'est des choses qui vont se voir dans les comptes de ces entreprises à la fin du trimestre. Et surtout, voilà, on n'a pas un horizon où on se dit, bon, allez, dans 3 semaines, c'est fini. Non, non, on ne sait pas. Ça peut durer 3 semaines ou ça peut durer 3 ans.
Bon, parlons de Hoop, qui est une application assez intéressante qui développe un concept que j'ai trouvé hyper intéressant. Il se trouve que c'est une application qui est développée par des Français, donc c'est encore une raison en plus d'en parler, mais ça va beaucoup plus loin que juste ça. C'est en fait une application qui vous permet de trouver des gens à suivre sur Snapchat avec une méthode qui est calquée sur le swipe droite, swipe gauche de Tinder. Et je trouve ça complètement génial, c'est-à-dire que vous connectez votre application Hoop à Snapchat et ça vous présente des photos d'utilisateurs de Snapchat et ça vous propose de swiper droit ou gauche pour vous connecter avec eux. Et c'est un moyen, en fait, de sélectionner les gens qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable que d'avoir une liste de noms, peut-être même avec une petite photo, et de devoir aller cocher sur toute la liste. Et alors, elle s'est hyper hyper bien téléchargé ces quelques derniers jours. Ça fait pas très longtemps qu'elle est disponible, ça fait allez, une semaine, et elle est déjà téléchargée 2,5 millions de fois. C'est la société Daz qui la développe. Et alors, ils ont un petit peu de pratique, on va dire, un petit peu limite. Ils vous proposent donc de le faire 10 fois, et puis après, vous pouvez avoir des moyens d'ajouter des swipes positifs en notant bien l'application, en envoyant des liens à vos amis pour l'application. Enfin bref, c'est un truc vraiment les formules virales.
C'est un peu les mécanismes de viralité qu'on connaît dans le jeu mobile, en fait.
Voilà, et qui sont pas forcément très appréciés des App Store. Mais bon, si on passe cette question, le fait de se dire on va faire des sélections avec la méthode de Tinder, je me rends compte que c'est génial parce que ça peut être appliqué à énormément de choses. Cette sélection swipe gauche, swipe droite, ça peut être appliqué à mille usages. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise que pour Tinder ? Ça pourrait être utilisé pour proposer des gens à suivre sur Twitter, ça pourrait être proposé sur... Enfin, il y a mille utilisations différentes qui sont imaginables, et je ne serais pas surpris de voir que cette idée est reprise. C'est un petit peu comme les stories, je crois. On va voir si je me plante ou pas, mais les stories, elles ont été appliquées, bien sûr, à plein de réseaux sociaux, mais il y a YouTube qui fait des stories, il y a même Netflix qui vous fait, en fait, des sortes de stories pour vous montrer les trailers des nouvelles séries. Cette idée m'a paru assez géniale et je me demande si on ne va pas la voir ailleurs.
C'est intéressant parce qu'en plus, ça illustre un changement de stratégie de Snapchat qui s'ouvre justement à des applications extérieures, ce qui n'est pas du tout le mouvement général, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux où tout le monde a envie plutôt de te concentrer sur son application. Mmh. Et apparemment, ça marche parce que c'est des choses qui tout à coup, renvoient énormément les gens vers l'app, etc. Non, c'est intéressant.
C'est marrant parce que ça fait aussi, ça a une, évidemment l'application c'est peut-être un petit peu de trouver, on va dire, l'âme sœur, et les utilisateurs de Snapchat, Tinder n'est pas accessible aux moins de 18 ans, et pour ce type d'interaction c'est pas autorisé. Et donc là, ça mimique un petit peu la chose, mais est-ce que ça fait pas... Bon, il y a une petite question qui se pose là aussi. Mais sur le principe, oui, je trouve que... Et t'as raison, le fait que Snapchat et SnapKit, qui permet à d'autres développeurs de développer des applications pour la leur, ça leur a permis d'ailleurs de rester dans la course, alors qu'ils étaient en train de se faire bouffer par les autres, et notamment par Instagram. Eh ben, ils sont encore dans la course, Snapchat, alors qu'on donnait pas cher de leur peau il y a quelques temps. Tiens, résultat de l'action en justice contre Apple pour l'histoire des iPhones ralentis pour protéger la batterie. Il y a une grosse amende pour Apple, c'est pas grand chose, mais c'est 25 millions d'euros, je crois. Mais aucun jugement sur la question de l'obsolescence programmée. Vous vous souvenez, on en parlait à l'époque, et on trouvait que la fronde de HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui est une association qui défend la durabilité des appareils, était vraiment artificielle, parce que justement le but d'Apple avec cette idée, c'était de ralentir les téléphones pour qu'ils durent plus longtemps et pour que la batterie ne s'endommage pas. Donc les tribunaux ont visiblement jugé que effectivement c'était bien le cas, et Apple, même s'ils avaient mal communiqué sur le sujet, il n'y avait pas d'intention d'obsolescence programmée. Apple a vendu 30 millions de montres en 2019, ce qui est plus que l'ensemble de l'industrie de la montre suisse, qui en a vendu 21 millions. Alors, Apple est en progression de 36%. L'industrie de la montre suisse est en recul de 13%. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes montres. Hein. On se doute bien qu'une montre suisse
parle pas
en moyenne
de la même chose.
coûte un peu plus cher. Mais c'est intéressant.
Dépend.
Oui, il y en a qui ne sont pas chers aussi. Mais c'est intéressant parce que, là encore, quand Apple a annoncé sa montre, ils étaient complètement marginaux. Et on a eu des images, des rappels de ce qui s'est passé avec le téléphone mobile, et où ils ont complètement bouffé l'industrie du téléphone mobile, et la Suisse regardait ça en disant mais non, nous c'est pas, mais attendez, et ils en vendent déjà plus, donc c'est quand même important. Et dernier sujet sur Apple, et puis je te donne la parole Cédric sur ce que tu veux, iCloud.com est désormais disponible en version mobile, en page web, comme c'était le cas sur la page web sur ordinateur de bureau, y compris sur Android, et ça vous donne accès aux photos, aux notes, aux reminders, et à l'application Find My, donc pour trouver son iPhone et peut-être bientôt d'autres appareils, enfin les appareils Apple et puis la petite capsule pour qu'on accroche à ses clés pour pouvoir trouver ses clés aussi. Mais l'important, c'est que c'est disponible également sur Android et donc on a accès à toute une partie de l'écosystème Apple. Oui, c'est par la page web. Oui, c'est moins pratique qu'en application, c'est moins utilisable sur mobile. Mais on y a accès sur Android aussi. Et j'ai trouvé que c'était une toute petite news qui est passée un petit peu inaperçue, mais qui a une conséquence hyper importante sur l'utilisation de la plateforme web par Apple, qui donne accès à ces services de manière tronquée, mais à plein, en fait, aux utilisateurs Android. De la même manière que moi, j'utilise sur mon ordinateur Windows, le site web iCloud avec les rappels, les notes, etc., pour pouvoir faire quelques trucs là-dessus. Et ça me permet de rester connecté à mon écosystème Apple et de fait, d'utiliser plus facilement mes appareils Apple, parce que ça reste ces versions web, c'est pratique, mais ça reste une version, on va dire, un petit peu sur béquille, quoi. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et personne n'en a parlé.
En fait, il y a toujours une sorte de... Je pense qu'il y a toujours un débat interne chez Apple sur leur degré d'ouverture à d'autres plateformes, parce qu'évidemment, c'est pas sur le logiciel. Alors, par contre, non, ça, c'est de moins en moins vrai. C'est pas sur le logiciel qui gagne de l'argent, c'est de plus en plus sur le logiciel qui gagne de l'argent et sur le service. Du coup, justement, je pense que ça les pousse à être plus ouverts et à pas se dire, non mais attends, pourquoi est-ce qu'on ferait fonctionner ça sur un PC, sur un smartphone Android, etc. Oui, c'est logique et bienvenu que toutes les fonctions d'iCloud qu'on a au travers des applications soient trouvables au moins comme moyen de secours, j'ai envie de dire, travers d'une interface web. C'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de mon iPhone ? Oui, avoir Find My iPhone dans l'interface web d'iCloud, oui, ça tout à coup, c'est tellement logique. Je suis même étonné, c'était pas déjà là avant. Bon, je me gratte la tête, j'irai vérifier.
C'était disponible sur iCloud, mais en version bureau, pas en version mobile. L'interface n'était pas vraiment faite pour la version mobile. Là, maintenant, c'est utilisable. C'est un petit peu comme iTunes qui est arrivé sur Windows. C'est un moyen d'étendre leur influence et c'est une nouvelle version de ça pour moi.
Et il faut se souvenir, à l'époque, ça avait déjà fait débat à l'intérieur d'Apple bien en sûr. Disant quoi ? On va faire une version Windows, berk sur l'amende pour les iPhones ralentis, bien sûr que non, ça ne peut pas être une condamnation pour obsolescence programmée, parce que l'obsolescence programmée, pour arriver à les condamner là-dessus, il faudrait détecter ou prouver une intention délibérée. C'est-à-dire, en gros, il faudrait trouver des documents internes à Apple où il y a écrit comment peut-on faire pour que les gens soient forcés de changer de téléphone tous les deux ans.
Sur ce point, sur la question de la batterie, c'est encore plus que ça. C'est qu'on peut arguer du fait que Apple fait certaines choses pour nous pousser à renouveler nos téléphones. Ok, peut-être. Mais sur ce point spécifique, l'histoire de la batterie, c'était vraiment pour faire en sorte que les téléphones puissent durer plus longtemps. Donc là, il y avait l'argument ne tenait vraiment pas. L'argument
de HP ne tenait pas. En revanche, c'est vrai qu'il aurait fallu qu'ils communiquassent plus en amont et plus efficacement en disant attention, il y a une mise à jour, voilà ce que ça va faire et voilà pourquoi on le fait, et pas que les gens découvrent que tiens, c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'ai plus accès, pourquoi est-ce que ma batterie va moins loin qu'avant. Bref,
et c'est sur ce point qu'ils ont été condamnés, oui, 25 millions d'euros.
Ça leur a coûté beaucoup. L'amende est moins chère que ce que ça leur a coûté de changer des millions de batteries à vil prix. Et ça leur apprendra pour la suite. Mais on verra. C'est pas quelque chose. Moi, j'ai toujours un problème face à l'obsolescence programmée, parce qu'en fait, la question de la durée de vie des appareils.
Ne faisons pas ce débat, Cédric.
Non, on va pas repartir sur les lave-linges et tout ça. Mais quand on se bat sur les prix, à un moment, ça a un coût.
Oui, et puis sur la question d'obsolescence programmée, effectivement, on peut parler de toute l'industrie, mais dans cette industrie, Apple est l'un des meilleurs élèves. Donc c'est aussi... Mais par contre, ils sont plus visibles, donc forcément, leur taper dessus, ça fait plus de pubs. Disney va rendre Disney Plus disponible bientôt, là, en mars, et ailleurs, enfin en Europe et en Inde d'ailleurs. Il risque de lancer Hulu, qui est une autre chaîne qui est disponible aux États-Unis, qui a une cible un petit peu différente et des produits un petit peu différents. On vous en reparlera si ça arrive, mais ça pourrait arriver en 2021. Et d'ici là, Salto, la plateforme française de streaming, a été repoussée. Encore une fois, elle a été repoussée à septembre. au début, je me suis dit, ah, mais voilà, encore, ils vont encore rater, ils vont laisser les autres s'installer. Et en fait, je crois que ce n'est pas forcément une mauvaise idée, parce que vu qu'ils n'ont pas pu se lancer fin 2019, ce qu'ils auraient dû faire, le fait de sortir en frontal par rapport à Disney+, je ne sais pas si ça serait forcément un meilleur choix que d'attendre la rentrée de septembre et de se dire on va faire un gros coup de com' en septembre. Donc mon instinct initial qui a été « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils sont encore en retard, ils vont laisser Disney+ s'installer. » Je crois qu'en fait, c'est peut-être une meilleure idée de se lancer une fois que l'ouragan Disney sera passé.
Oui, moi je travaille pour une maison qui est l'un des co-créateurs de Salto, donc je n'ai aucune opinion.
Nvidia a lancé son service GeForce Now de streaming de jeux vidéo qui fonctionne pas mal du tout. Alors c'est, on va dire, une offre qui est entre Shadow PC et Stadia, si vous vous intéressez à ces sujets. C'est à étudier si vous aimez les services de ce type. Et surtout, il est gratuit. On en parlera, enfin gratuit avec certaines limitations, mais il est gratuit pour le moment. On en parlera dans le rendez-vous jeu. Donc, si vous cherchiez une offre qui soit vraiment utilisable de streaming de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo sur votre Mac ou votre téléphone Android, des jeux vidéo de grande qualité, enfin des jeux vidéo PC, vous pouvez étudier la chose. Il faut acheter les jeux, par contre, mais c'est les jeux que vous avez déjà achetés. Donc, ça peut vraiment être une option qui vous convient. On en parlera dans le rendez-vous jeu, donc allez voir ça. Mais ce qui est sûr, c'est que cette industrie du streaming de jeux vidéo continue à grossir. Microsoft réorganise sa division Windows en la faisant passer dans le même groupe que la division matérielle, et elle est gérée désormais par Panos Panay, le charismatique leader des, on va dire, qui présente les Surfaces avec succès. Ça s'appelle maintenant la division Devices and Windows. Est-ce que c'est une promotion pour Panos Panay, ou est-ce que c'est une démotion pour Windows qui n'est pas du cloud, donc Satya Nadella s'en fout? Je sais pas.
Ah, ça reste très important, parce que c'est aussi une condition de la visibilité du reste des offres. Hein. C'est comme si, tu vois, si Apple disait, bon, on fait un freak fou avec iCloud, avec voilà, les apps, les abonnements, TV+, et le reste, ce serait jamais de toute façon un prétexte pour arrêter de vendre des iPhones, parce que c'est quand même, alors, mis à part évidemment les milliards qu'ils gagnent avec les iPhones, mais c'est ça qui rend ta marque visible au quotidien. C'est le fait que, et là pour Microsoft, le fait que tout le monde utilise Windows ou presque, qu'il y ait des surfaces partout, que tu vois ce que je veux dire. C'est de toute façon quelque chose qu'ils peuvent pas mettre de côté. Donc, évidemment, Satya Nadella, lui, il vient du cloud, donc, et c'est quand même un business qu'il a fait littéralement exploser au point même de concurrencer assez efficacement avec Azure les offres d'Amazon Web Services. Mais pour autant, Microsoft va pas devenir juste Azure.
Oui, disons que ça représente une grosse partie, on en parlait la dernière fois, mais oui, je crois que Windows n'est pas prêt de disparaître, ça c'est certain. C'est intéressant de le mettre sous Panos Panay, qui a une, on va dire, qui a une personnalité intéressante et qui a une, comment dire, des qualités esthétiques dont on a souvent dit qu'elle manquait à Microsoft, et très historiquement c'était le cas. Il a un amour du design dont je suis curieux de voir comment il va s'appliquer à Windows, si tant est que Windows continue à évoluer, parce que mine de rien, maintenant Windows 10 c'est un petit peu un truc qui ronronne, c'est pas qu'il va y avoir un Windows 11. Bon, on verra si Panos Panay a une influence sur le software comme il en a sur le hardware. Dernier petit sujet, juste pour rigoler, as-tu entendu parler du dernier bug de Windows 7 ?
Mais c'est plus supporté Windows 7, ça n'existe plus.
Et ben c'est ça qui est marrant, c'est que Windows 7 n'est normalement plus supporté, en tout cas pour le public général. On peut payer pour encore avoir du support sur Windows 7 quand on est une société, et ça devient de plus en plus cher chaque année, parce que bah maintenant c'est terminé Windows 7, hein. Il a quand même 10 ans le produit, il est temps de passer à autre chose. Et il continue à devoir faire des mises à jour systématiquement, parce que il y a des bugs importants qui sont introduits par les mises à jour précédentes. Le dernier dernier en date, c'est un bug qui vous interdit d'éteindre ou de redémarrer votre PC. C'est-à-dire que quand vous essayez de redémarrer, ça vous dit, eh bien, vous n'avez pas le droit de... Quand vous essayez d'éteindre le PC, ça vous dit un message d'erreur qui dit, vous n'avez pas le droit d'éteindre votre PC. Donc, évidemment...
Qui a le droit ? Qui a le droit ?
D'éteindre son PC.
Donc, apparemment pas toi, voilà.
Clairement, bon, c'est pas un bug qui arrive à tout le monde, mais donc ils vont encore devoir faire une mise à jour à la mise à jour de la mise à jour. Jusqu'à quand est-ce que ça va continuer? On ne sait pas, mais là, ils essayent vraiment d'arriver sur la fin. Je crois que des machines qui tournent sous des très vieilles versions de Windows, je peux comprendre. Sous Windows 7, il n'y a vraiment pas de raison. Tout fonctionne sur Windows 10 aussi. Il y a des options de compatibilité qui, à ma connaissance, fonctionne avec tous les logiciels aujourd'hui. Donc, bon, Windows 7, ça va, quoi. Il est temps de mettre à jour. Surtout que je crois que ça fonctionne encore, la mise à jour gratuite. Je ne sais plus.
Je crois qu'il y a encore un mécanisme pour faire une mise à jour gratuite.
Oui, oui. Bon, enfin, les gens qui écoutent cette émission sont tous sur Windows 10, bien sûr, ou sur la dernière version de macOS, parce qu'ils savent qu'il faut garder ces machines à jour pour être en sécurité. Donc, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez entendre cette news et rire de ceux qui sont encore dans ce cas. Et vous pouvez rire jusqu'à la semaine prochaine, quand on vous donnera de nouvelles news de la tech pour un nouvel épisode, puisque celui-ci arrive à son terme. Je remercie évidemment très chaleureusement Cédric d'avoir été avec moi. Est-ce que on peut te retrouver quelque part sur Internet pour avoir plus de Cédricerie, peux-tu dire aux auditeurs?
Ah oui, toujours plus. @Cédric sur Twitter, si vous regardez la télévision, et vous êtes nombreux, et ça fait plaisir, parce qu'en plus, les chiffres sont très très bons. La matinale week-end sur LCI, 7h47, 9h45 le samedi. Venez, toujours plus nombreux. En plus, on s'amuse beaucoup. Et puis, mon camarade Olivier Frigara, que tu connais bien, lance un nouveau podcast. Ça fait plus de 10 ans maintenant qui fait On refait le Mac. On refait la tech maintenant, avec quelques confrères que tu connais aussi, comme Elsa Bambaron, entre autres. Tout ça. Alors, la première émission est sortie là, vous la trouverez sur YouTube. Ce n'est qu'un, on va dire, un pilote amélioré, mais le contenu est de qualité aussi, en attendant qu'il fasse un vrai décor de talk show à l'américaine, vous verrez.
Très bien. Donc, sur YouTube, on refait la tech. Et bien sûr, @Cédric sur Twitter. Pour ma part, c'est @NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. À propos d'Instagram, je suis assez enamouré d'Instagram en ce moment. Donc, si vous voulez me suivre, je vais peut-être mettre le lien vers mon compte Instagram dans les notes de l'émission. Si vous voulez me suivre sur Instagram, ça serait sympa. En plus, j'aimerais bien arriver à 10 000 abonnés sur Instagram pour pouvoir utiliser le lien dans les stories. Les stories sont très sympas et j'aime beaucoup et donc je les utilise. Allez voir, vous avez compris le message.
Toi aussi, Instagram. Tu as envie de devenir micro-influenceur.
Jean-Luc, tu peux me passer un coup de fil. Et donc, allez voir du côté d'Instagram. C'est notre Patrick, hein, c'est pas très compliqué. Je fais des petits trucs sympas, il va y en avoir de plus en plus. Et vous pouvez me suivre pour m'aider à arriver à 10 000 abonnés. Merci beaucoup. Et bien sûr, encore plus important que ça, patreon.com/rdvtech pour faire en sorte que ce magazine de la tech continue à être celui qui vous plaît et qu'il soit une émission de qualité. J'espère en tout cas que vous l'appréciez. Et donc, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Ça prend 2 minutes pour s'abonner et le lien est dans les notes de l'émission. Merci à vous tous et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.